à Washington.
Bonsoir à tous, Abdulrahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes lundi 12 mars 2018 au sommaire. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, annonce la création de son parti en vue de la présidentielle de décembre. Journée ville morte en Guinée, à l'appel de l'opposition, une radio privée a été incendiée. Au Niger, un journaliste accusé d'usurpation de la nationalité nigérienne a été condamné en appel à 2 ans de prison, dont 12 mois avec sursis. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé au Nigeria, dernière étape de sa tournée africaine. Un peu plus tôt, il était au Tchad.
L'inscription du Tchad sur cette liste est une injustice faite au Tchad, surtout par rapport à son engagement et à son effort dans la lutte contre les terroristes.
Et puis l'administration Trump dévoile son plan pour combattre les fusillades dans les écoles et l'accès aux armes à feu. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'opposant congolais en exil et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi a lancé en Afrique du Sud son parti politique Ensemble pour le changement. Ceci en vue des élections générales prévues le 23 décembre 2018. Nous livrerons la bataille de l'alternance et nous la gagnerons, a lancé Moïse Katumbi devant quelques centaines de partisans réunis dans un hôtel de la banlieue de Johannesburg. Nous reviendrons sur les préparatifs des élections de décembre en RDC dans notre parti magazine. Au Cameroun, un gendarme a été tué ce week-end à Batibo, une commune de la région du nord-ouest du pays. Selon un député originaire de la région, la victime est le commandant de la brigade de la gendarmerie d'Achang dans l'arrondissement rural de Batibo. Le 8 mars, le ministre de l'Intérieur, Paul Atangi, avait pris des mesures restreignant la circulation des mototaxis afin d'éviter de nouvelles attaques de séparatistes anglophones de la région. Manifestation ce lundi à Conakry pour réclamer la fin du conflit dans l'enseignement, alors que l'opposition a appelé à une journée ville morte pour protester contre les résultats des élections locales. Nathalie Barche.
Des milliers de personnes ont réclamé la réouverture des écoles fermées depuis le 12 février en raison de la grève des enseignants. Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le palais présidentiel, reprochant au président Alpha Condé de n'avoir pas trouvé de réponse aux revendications des grévistes. À ce conflit dans l'enseignement s'ajoutent les protestations de l'UFDG, qui a appelé à une journée ville morte pour contester la victoire du parti au pouvoir lors des élections locales. Des jeunes munis de bâtons sur le boulevard Le Prince ont forcé les gens à rentrer chez eux. Des pneus ont été brûlés et des barricades érigées dans les quartiers Boulbinet et Sandervalia. Le 7 mars, des milliers de femmes habillées en blanc ont manifesté pour dénoncer les violences policières, poussant le président Condé à promettre un grand remaniement ministériel.
Au Niger, un journaliste condamné en première instance à 2 ans de prison ferme pour usage de faux. Le journaliste Baba Alpha a vu sa condamnation ramenée à 1 an ferme et 1 an avec sursis. Le point avec Abdulrazak Idrissa à Niamey.
Avec cette décision, c'est en principe au début du mois d'avril prochain que le journaliste de la chaîne de télévision privée Bonferri, Baba Alpha, et son père sortiront de prison. Les 2 années fermes auxquelles ils ont été condamnés en première instance sont ramenées à 1 an ferme et 1 an avec sursis par les 3 juges de la cour d'appel de Niamey. Aussi, la décision du juge de première instance ayant été annulée et la cour d'appel n'ayant pas fait cas dans son délibéré de ce lundi matin, la dégradation pour 10 années des droits civils et politiques prononcés à l'encontre de Baba Alpha tombe de fait, estime son avocat, Maître Hassan Oumarou.
Par rapport à la dégradation civile, la Cour ne s'est pas prononcée. Mais nous considérons, du moment où la Cour annule le premier jugement, et n'a pas statué sur la dégradation civile, on considère que Baba Alpha n'est plus condamné par les dispositions de l'acte 20. Donc, il retrouve ses droits civiques.
La Cour d'appel de Niamey a par ailleurs demandé, comme le premier juge, la confiscation à Baba Alpha de sa carte d'identité, de son certificat de nationalité et de son passeport. Il s'agit des pièces d'état civil que le journaliste se serait fait établir sur la base du faux, raison pour laquelle il a été interpellé en avril 2017 avec son père et deux autres personnes jugées comme leurs complices. Le premier a bénéficié d'un non-lieu lors de l'instruction, alors que le deuxième, après avoir passé 10 mois en prison, a bénéficié d'une grâce présidentielle. Abdullah Razak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé au Nigeria, dernière étape de sa tournée africaine. Avant cette étape, il était au Tchad et a écourté sa tournée africaine pour revenir à Washington. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'étape tchadienne du secrétaire d'État américain Rex Tillerson n'a duré que quelques heures. De l'aéroport, il s'est rendu directement à la présidence pour rencontrer le président Idriss Déby Itno. Le président Déby a plaidé pour une solution politique à la crise libyenne, source, d'après lui, des nombreuses armes qui circulent dans le Sahel entre les mains des djihadistes. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue tchadien, Mahamat Zen Sherif, Rex Tillerson a assuré les autorités tchadiennes sur la tenue de discussions en vue de lever la mesure qui interdit aux ressortissants tchadiens d'entrer aux États-Unis. Après le Tchad, le secrétaire d'État américain a mis le cap sur Abuja, au Nigeria. Lors de sa visite de 4 heures, il a rencontré le président Muhammadu Buhari. M. Tillerson, qui a entamé mercredi sa première tournée en Afrique, en Éthiopie, a écourté son séjour africain d'un jour. Il revient demain mardi à Washington pour des réunions urgentes, d'après le sous-secrétaire d'État Steve Goldstein.
Et nous reviendrons sur l'étape tchadienne de Rex Tillerson dans la partie magazine. En Sierra Leone, les deux principaux candidats à l'élection présidentielle de mercredi dernier sont au coude à coude sur la base du dépouillement des trois quarts des bulletins de vote. Julius Maada Bio, candidat du Parti du Peuple de Sierra Leone, a pris une très courte avance avec 43,3% sur l'ex-ministre des Affaires étrangères Samora Camara, qui lui a 42,6%. 15 000 voix séparent donc les deux candidats. Ces résultats, s'ils se confirment, il y aura un second tour. Violence en Éthiopie, des habitants d'une ville du sud du pays dans la région Oromo ont contesté la version du gouvernement qui avait évoqué un accident dans la mort de 9 civils. L'agence officielle INA avait rapporté hier que des soldats avaient tué 9 civils à la frontière avec le Kenya après les avoir pris pour des membres d'un groupe armé rebelle. Mais deux résidents de Moyale ont expliqué ce lundi que la fusillade s'était produite dans un quartier réputé pour son opposition au gouvernement éthiopien. Polémique en Ouganda après des propos jugés sexistes d'un député. En tant qu'homme, vous devez discipliner votre femme, a déclaré Chama Siwoko Onemus. Vous la battez un peu pour la remettre à sa place, a-t-il ajouté. Ces propos ont scandalisé l'opinion publique. M. Onesimus répondait aux commentaires du président ougandais Yoweri Museveni, qui a déclaré que les hommes qui battaient leur femme ou leur petite amie étaient des lâches. Selon le journal Daily Monitor, plus d'une femme sur 5 âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violences domestiques ou sexuelles en Ouganda. Au Maroc, les dirigeants du mouvement de contestation sociale qui agite depuis fin décembre l'ancienne ville minière de Djerada ont appelé à la poursuite des manifestations et à suivre une grève générale. Depuis samedi, 4 jeunes activistes ont été arrêtés. Pour protester contre ces arrestations, des milliers de personnes ont manifesté hier.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration Trump dévoile une série de mesures pour tenter de venir à bout des fusillades dans les écoles. Ces propositions qui interviennent près d'un mois après la tuerie survenue dans un lycée de Floride qui avait fait 17 morts. Le point avec Idriss Fall.
L'administration Trump va proposer son aide aux États qui souhaiteraient former certains enseignants ou employés d'école au maniement des armes malgré l'opposition de plusieurs syndicats d'enseignants. L'idée d'introduire des armes dans les écoles pour faire face à d'éventuels tueurs fait partie d'un plan pragmatique pour améliorer considérablement la sécurité dans les écoles, a souligné la ministre de l'Éducation, Betsy DeVos. Dans une conférence téléphonique avec des reporters hier soir, Andrew Bremberg, un conseiller du président, a déclaré que le gouvernement fédéral encourage les États à adopter, à l'instar de la Floride, des décrets temporaires de prévention des risques qui permettraient à la police de retirer leurs armes à des personnes considérées comme menaçantes. Cependant, ces mesures n'incluent pas la révision de l'âge minimum pour acheter une arme à feu. Mais pour le chef de l'opposition démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ces mesures ne sont que de petits pas pour ne pas contrarier la NRA, le lobby des armes à feu.
Le président russe Vladimir Poutine conseille à Londres de tirer les choses au clair concernant l'empoisonnement d'un ex-agent double russe en Angleterre avant toute discussion à ce sujet avec Moscou. Interrogé par la BBC sur une éventuelle responsabilité de la Russie dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal, M. Poutine a répondu, selon les agences de presse russes, « Tirez les choses au clair de votre côté et après, nous en parlerons avec vous. » Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille de 33 ans ont été retrouvés inconscients le 4 mars dans le sud de l'Angleterre où vit l'ex-espion. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Blanche Sanou qui nous présente la Minute Éco.
Au Burkina Faso, l'entrepreneuriat féminin bénéficie de plus de 4 milliards de francs CFA pour les énergies durables. Mis en place par l'ONG Christian Haid, c'est un projet qui va augmenter les emplois et revenus des femmes. Un fonds qui permettra aussi d'améliorer les conditions de travail et de vie et le bien-être des femmes en leur facilitant l'accès aux technologies. Le projet de 3 ans de 2018 à 2021 intervient dans 3 autres pays du monde, à savoir l'Éthiopie, le Honduras et le Malawi. Au Cameroun, la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit a engrangé plus de 10 milliards de francs CFA de bénéfices. Dans un communiqué, les responsables de la banque expliquent que ce bénéfice a été obtenu grâce à une politique bancaire efficace, modernisée et au dynamisme de son personnel. En Côte d'Ivoire, le conseil du café cacao a annoncé une suspension temporaire des opérations d'amélioration de la production de cacao à compter de la campagne 2018-2019. Ces activités englobent notamment la distribution de matériel végétal amélioré, de semences à haut rendement et des boutures. Ce plan devrait permettre d'une part de soulager le système croissant de la production, mais aussi c'est une mesure d'adaptation pour faire face à l'effondrement des coûts mondiaux depuis la saison 2016-2017.
Vous l'aurez deviné, on démarre cette page des sports avec vous, Eric Manirakiza. Bonsoir, Eric.
Bonsoir, Abdelrahman.
Et football sur le continent, le trophée mondial de la FIFA est exposé au Grand Théâtre de Dakar.
Les amateurs du ballon rond se sont déplacés nombreux pour contempler ce trophée. Une occasion très rare qui a rappelé à certains nostalgiques de la Coupe du Monde de 2002. Abdou, le Sénégal avait atteint les quarts de finale pour sa première participation. 16 ans après, les Lions sont de nouveau au rendez-vous au mondial du football. Vont-ils rééditer l'exploit? Wait and see, comme disent les Anglais. Après Dakar, la Coupe du Monde continue sur sa route vers Abidjan.
Et on reste un peu avec les Lions de la Teranga qui vont livrer des matchs amicaux, n'est-ce pas?
Oui, le 23 mars contre l'Ouzbékistan au Maroc et le 27 contre la Bosnie-Herzégovine en France. La sélection, le sélectionneur Aliou Cissé, capitaine de l'équipe en 2002, a convoqué 30 joueurs pour ses deux premiers matchs de préparation. Après un rassemblement au Sénégal en mai, la sélection effectuera son principal stage dans la station thermale française de Vittel avant de rencontrer le Luxembourg, la Croatie et une cinquième nation encore à déterminer.
Et d'autres rencontres de préparation, Eric?
La Russie, pays hôte de la Coupe du Monde, affronte à Moscou le Brésil. C'est le 23 mars et la France à Saint-Pétersbourg. Le 27 mars, après Moscou, la CSKO se rendra à Berlin pour ses retrouvailles avec l'Allemagne. C'est la première fois depuis le fatidique 7-1 des demi-finales du Mondial 2014. C'était au Brésil.
Retour de la Ligue des Champions, Manchester United et Roma sont attendus au tournant.
Ils doivent surmonter des résultats en demi-teinte à l'aller pour faire valoir leur statut de favori. Et c'est demain, mercredi, le Bayern devrait valider sans problème son billet, tandis que le Barça accueillera Chelsea après un nul 1-1 à l'Angleterre.
Peut-être un mot rapidement sur la NBA.
Boston s'est incliné devant Indiana 87-99. Brooklyn a perdu face à Philadelphie 97-120. La Lakers a largement vaincu Cleveland 127-113. Et Golden State s'est incliné devant Minnesota.
Merci beaucoup, Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé à Abuja, dernière étape de sa tournée africaine, principalement axée sur la sécurité, la coopération, les investissements et les conflits. Le chef de la diplomatie américaine était en provenance de N'Djamena, où il a rencontré le président Idriss Déby. Le point avec André Konmajingar.
Arrivé ce lundi matin à N'Djamena, le secrétaire d'État américain a été reçu pendant plus d'une heure par le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno. L'occasion pour le président Déby de lui réitérer son incompréhension au sujet de l'inscription du Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits des visas d'entrée sur le territoire américain. Audience à l'issue de laquelle une conférence de presse conjointe a été co-animée par Rex Tillerson et le ministre tchadien des Affaires étrangères. Pour Mohamed Zen Chérif, le Tchad doit être retiré de la liste noire de l'administration Trump.
L'inscription du Tchad sur cette liste est une injustice faite au Tchad, surtout par rapport à son engagement et à son effort dans la lutte contre le terrorisme. Nos services de sécurité ont travaillé ensemble pendant longtemps et toutes les conditions sont réunies pour que le Tchad soit retiré de cette liste.
Cette visite qui, selon les autorités tchadiennes, témoigne de l'importance des partenariats stratégiques entre les deux États, entraînera-t-elle la levée immédiate de cette mesure? Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson répond.
We had a very good trip from the U.S. Department of Homeland Security.
Des agents du ministère de la Sécurité du Département d'État ont visité le Tchad à la fin de l'année dernière. Ils ont eu de très bons échanges avec les autorités tchadiennes. Beaucoup de pas importants ont été franchis par le gouvernement du Tchad pour renforcer le contrôle sur ses passeports, renforcer le partage d'informations sur des personnes suspectes ou qui peuvent être potentiellement des terroristes. Ces progrès vont nous permettre de mener des actions pour normaliser les relations avec le Tchad. Il y aura un rapport d'ici la fin du mois et qui sera revu par le président en avril. Et nous espérons que nous allons retourner à la normalisation concernant les voyages.
Se félicitant de la contribution des États-Unis d'Amérique au financement de la force conjointe du G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme à hauteur de 60 millions de dollars, le président Déby plaide pour qu'une solution urgente soit trouvée en Libye. Mohamed Zen Chérif est le ministre tchadien des Affaires étrangères.
Le chef de l'État a insisté sur l'urgence de trouver une solution politique à la crise libyenne et a exprimé sa vive préoccupation par rapport à la transformation de la Libye en un repère des djihadistes de tous les horizons. Il convient de rappeler à cet égard que les armes de tout calibre en circulation au Sahel proviennent essentiellement de la Libye.
André Kodmajingar Djamena, VOA Afrique.
John Linden. Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est l'information sur toute l'Afrique.
Et le reste du monde est la primeur sur l'actualité américaine.
Le Monde aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie, de la culture.
Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora.
L'actualité, c'est essentiel.
Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde aujourd'hui.
Sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
En République démocratique du Congo, les formations politiques s'organisent en vue des élections prévues le 23 décembre 2018. Les partis politiques ont jusqu'à la fin du mois pour déposer le nom des éventuelles plateformes politiques qui vont se présenter à ces scrutins. À ce jour, qui sont les candidats à la présidence? Morgane Guerrier a posé la question à Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La liste n'est pas encore assez exhaustive parce que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore lancé le processus de dépôt des dossiers de candidature, mais il y a déjà des personnalités qui se sont prononcées même bien avant la publication de l'actuel calendrier électoral. Le cas de Moïse Katumbi-Chapwe, qui vient d'ailleurs en Afrique du Sud de lancer son mouvement en vue des élections, dénommé Ensemble. Toujours au sein du rassemblement de l'opposition, il y a également Martin Fayoulou qui, au nom de l'SID, son parti politique s'était déjà prononcé depuis l'année dernière comme candidat. L'actuel Premier ministre Bruno Tshibala a été porté par sa frange de l'UDPS comme président de ce parti politique, mais ne s'est pas encore prononcé quant aux prochaines élections, même s'il a déjà lancé une plateforme électorale. On a beaucoup parlé de l'UDPS et de Félix Tshisekedi. On attend encore le Congrès qui devra désigner le remplacement de feu Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi a annoncé sa candidature comme successeur de Félix Tshisekedi, son père, à la tête de l'UDPS. Mais de là à l'annoncer candidat à la présidentielle, il y a un pas qui n'a pas encore été franchi.
Qu'en est-il du président sortant ?
À la majorité présidentielle également, le flou plane quant au dauphin du président Kabila. Le comité laïque de coordination a depuis l'année dernière lancé des marches pour appeler le président Kabila à se prononcer officiellement, à dire clairement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle, ce qu'il n'a pas encore fait. La fois dernière, il a renvoyé les gens à la Constitution, comme pour dire que c'est la loi des lois de la République démocratique du Congo qui avait scellé son sort. Mais le président Kabila n'a pas encore dit clairement qu'il ne serait pas candidat. Et la majorité présidentielle nous demande d'attendre l'organisation de ces prochaines assises pour annoncer ces candidats à tous les niveaux des prochaines élections. Car la majorité présidentielle a dit qu'elle veut gagner à tous les niveaux. Donc certainement, dans les semaines, dans les mois qui viendront, on en saura un peu plus.
On a déjà eu plusieurs reports de ces élections. Est-ce que cette fois-ci, le pays sera prêt ?
En tout cas, la machine électorale est en marche. La CENI est en train, avec les différents partis et plateformes politiques, de sensibiliser quant à l'utilisation de la fameuse machine électorale qui sera l'innovation des prochains scrutins. Pour la CENI, les élections auront lieu le 23 décembre 2018.
C'était Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, le PDCI veut présenter son propre candidat pour la présidentielle de 2020. Le porte-parole Jean-Louis Billon l'a déclaré samedi à Yamoussoukro devant plusieurs milliers de militants. C'était en marge d'une cérémonie en l'honneur du président Henri Konan Bédié. Néanmoins, le parti présidentiel RDR souhaite fusionner avec son allié de la coalition d'ici la fin de l'année. Est-ce la fin du rassemblement des oufouettistes? Pour analyse, Eric Manelakiza a joint à Abidjan l'un des leaders de la société civile ivoirienne, le docteur Christophe Kwame.
On ne sait pas si c'est la fin. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le PDCI demande à son allié du RDR, membre du RHDP, de lui retourner l'ascenseur pour 2020. Juste pour rappel, tout le monde sait officiellement que le PDCI s'était allié au RDR pour 2015 et de ce que nous savons de l'extérieur, pour 2020, ce serait un candidat issu du PDCI.
Avez-vous été surpris de ce changement de cap?
Alors, Bédié, surnommé le 5 de Daoukro, qui avait lancé l'appel de Daoukro il y a de cela quelques années, est en train de se donner tous les moyens pour pouvoir être au pouvoir, lui ou quelqu'un de son parti. Et à cela, nous avons assisté depuis le début de l'année 2017 et depuis 2016 d'ailleurs, un certain nombre de rencontres. Bédié a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Soro. Bédié a reçu Afin Guessan, président du FTI de l'opposition Gbagbo. Et nous apprenons même à travers les journaux que Bédié est en train d'envoyer Jean-Louis Billon, nouveau porte-parole du PDCI, à La Haye pour rencontrer le président Gbagbo. En tout état de cause, nous regardons et nous sentons que la stratégie mise en place du président Bédié, c'est une stratégie pour conquérir le pouvoir d'État pour 2020.
Mais Bédié, il a plus de 80 ans.
Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2016, la nouvelle constitution a enlevé la clé de l'âge par rapport à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 99 ans, 100 ans, et vous pouvez être candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire.
S'agit-il d'une véritable transformation politique en Côte d'Ivoire?
Oui, déjà, vous savez que les organisations de la société civile font énormément de sensibilisation envers les citoyens pour que ceux-là connaissent leurs droits et devoirs. Mais en même temps, vous observez que les politiciens qui ont commencé depuis les années 60, une deuxième génération de politiciens qui, je dirais, entre guillemets, dans les dents longues, commence à pousser les cartes et il y a une réorganisation qui est en train de se mettre en place. Dans tous les partis politiques, d'ailleurs, ce phénomène s'observe, des nouvelles personnalités apparaissent. Et d'ailleurs, les dernières législatives nous ont montré qu'il y avait presque 700 indépendants, souvent même issus des partis traditionnels. Donc, nous observons une réorganisation, effectivement, du paysage politique ivoirien avec beaucoup de nouveaux venus qui veulent se faire entendre, qui veulent faire entendre leur voix.
C'était Christophe Kouame, joint à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le premier sommet de l'Alliance solaire internationale, une initiative conjointe entre Paris et New Delhi lors de la COP21, a vu le jour. Les énergies renouvelables sont plus que jamais au cœur des enjeux énergétiques mondiaux. En Afrique, l'utilisation de l'énergie solaire passe par la maîtrise de son accumulation. Pour plus de détails, Arzuma Compaoré a joint Il Boudo William, spécialiste en énergie renouvelable.
Ben, le solaire est en train de faire son chemin en Afrique et je pense que ça marche assez bien. Je me rappelle en 2000, quand j'étais revenu des études, quand on allait dans les villages, on ne voyait aucun panneau photovoltaïque. Actuellement, il y en a plein partout. Mais ça ne marche pas de façon optimale. Tout simplement parce que les gens sont focalisés sur la production de l'énergie, mais il y a beaucoup d'autres éléments autour de la production de l'énergie. Par exemple, le stockage, par exemple, tous ces accessoires qui nous aident à réguler cette production d'énergie, il faut les maîtriser.
Quelle est la place de l'Afrique dans cette conquête du solaire?
Déjà, l'Afrique doit savoir ce dont elle a besoin. Parce que l'Afrique doit travailler pour elle-même aujourd'hui. L'énergie, c'est un outil de développement. Quand vous faites la transformation agroalimentaire, vous avez énormément de résidus. Et aujourd'hui, personne ne parle de ça. On peut utiliser ces résidus pour produire une partie des énergies dont on a besoin et compléter avec le solaire. C'est pour cela que je dis toujours, il est nécessaire de savoir ce qu'on veut faire avec l'énergie. Car c'est un outil. Même si on va vers l'énergie solaire, on dira plus tard que c'est extrêmement cher et que ça ne tient pas longtemps. Mais si on décide de stocker l'énergie sous forme de froid, sous forme de glace, dans des réservoirs isolés qui ne s'abîment presque jamais, alors on aura résolu un gros problème.
Quel est l'avenir finalement de l'énergie solaire, surtout pour l'Afrique qui est très riche en énergie solaire?
Je peux vous dire dès maintenant que l'un des plus grands problèmes de l'énergie solaire sera le stockage de l'énergie. Le stockage, ce n'est pas seulement le stockage en tant que tel, mais l'intelligence dans l'utilisation de l'énergie dans le temps. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas, en fait, les énergies renouvelables. Le soleil brille quand il veut. Et parfois, il n'est pas en concordance avec les besoins. Donc, on doit travailler dans nos universités à pouvoir mettre l'énergie à la disposition des gens au moment où ils ont besoin et là où ils ont besoin. Ça, c'est un gros travail qu'il y a à faire. C'est le défi que l'Afrique, mais aussi le monde, doit relever pour pouvoir vraiment utiliser correctement toute cette énergie renouvelable.
C'était Il Boudo William, spécialiste en énergie renouvelable. La
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la conseil Joubert Altaïb, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.